bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Le fameux guide touristique français Le Petit Futé vante le continent africain où l'on peut se perdre dans les vallées luxuriantes du Cap-Vert, faire une balade en pirogue dans la brousse du Burkina Faso ou vivre l'atmosphère survoltée de la pétillante Dakar, indique donc ce petit guide touristique. Alors, de Marrakech à Madagascar, nombreux sont les sites à visiter, car oui, on va parler tourisme sur un continent riche en diversité. Le tourisme est un secteur vital pour les économies africaines, contribuant au PIB et à l'emploi. Cependant, il est largement inexploité et confronté à divers défis, souligne l'ONU Tourisme. Alors, comment développer le tourisme en Afrique? Quels sont les obstacles au développement du tourisme et comment les lever? Que voudriez-vous aussi que l'on visite dans votre région? Ça, c'est une des questions qui vous a été posée sur les réseaux sociaux. Nous avons comme invité en ligne à Dakar, Awa Sow, présidente du CATS, le collectif des acteurs du tourisme au Sénégal. Elle est aussi directrice d'une agence de voyage. Merci beaucoup, Madame Sow, d'être avec nous.
Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Alors, je suis ravie de participer à l'émission.
Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des principales tendances au niveau touristique au Sénégal? Qu'est-ce qu'on aime visiter quand on vient dans votre pays, où se déplacent les touristes d'une manière générale?
Alors, vous savez, nous recevons beaucoup de touristes qui viennent de beaucoup de marchés. Principalement, donc, c'est la France qui est, en fait, en termes de tourisme international européen. Sinon, on reçoit aussi pas mal de tourisme de la sous-région, parce qu'en termes de statistiques, voilà, ils sont quand même très importants. Bon, pour tout ce qui est réunion, tout ça qui se passe à Dakar. Et de plus en plus aussi, il y a du tourisme individuel, voilà, parce que par rapport aux mutations, le tour operating qui commence à changer. Et de plus en plus, les touristes veulent faire eux-mêmes leur voyage, faire des voyages à la carte, voilà, ne pas être dans des formules très organisées, parce que tout ça, ça a été quand même boosté par l'Internet où l'information était disponible à tout instant, à tout moment. Et donc, de plus en plus, les voyageurs construisent eux-mêmes leur circuit. Et puis, toute l'information est disponible. Voilà, donc, c'est assez diversifié du nord au sud, de l'ouest à l'est. Mais les parties les plus visitées actuellement, c'est toujours Dakar et c'est la petite côte, les îles du Saloum, qui ont depuis 3 ans quand même été boostées par pas mal de promotions. Et toujours la Casamance, qui reste une des destinations préférées par rapport à son authenticité, à sa culture qui est restée beaucoup plus intacte, et aussi l'Est du Sénégal, qui est quand même une destination qui monte de plus en plus, parce qu'on visite des minorités comme les pays Bassari, les pays Bédik, voilà, sur les hauteurs des collines des contrefonds de Fouta Diallo. Voilà.
Ah ouais, faut rester avec nous. On va se rendre un petit instant en République démocratique du Congo pour écouter Hortense Kavou-Maliro qui parle de sa région, Ngoma, d'une manière assez émue. On l'écoute.
Oui, le tourisme était secteur vital pour l'économie africaine. Mais nous, en RDC, surtout dans la province du Nord Kivu, les touristes ne viennent plus. Comment ils peuvent venir pendant que il y a la guerre? Cette guerre fait à ce que tout bloque. Et d'ailleurs, moi je me rappelle, on n'enviait pas les vols d'avion, non. Oh, je me rappelle quand j'étais enfant, ma famille, pendant ses vacances par exemple, non, on pouvait entrer juste dans la voiture, nous quittions la ville de Goma, nous allons à la Ruinerie, au parc national de Virunga, nous visitons, nous voyons les espèces animales, on pouvait passer à la Kédouar, qui est juste au niveau de Routour, là, on pouvait aller manger des poissons frais, on voit des hippopotames, je ne sais pas si on va encore voir, on a des gorilles de montagne. vers les massifs. Ici, là, on peut voir toutes ces montagnes. C'est beau à voir. Hein? En allant dans les grands noms, les escarpements, là, les monts Mitumba, vous longez la route, vous continuez. Il faudrait arriver à ce que la paix revienne pour que on donne au monde cette occasion de visiter. Je vous dis, la guerre a tout abîmé, la guerre a tout détruit.
Voilà, c'était la réflexion de Hortense Kavuo-Maliro qui est à Goma, en République démocratique du Congo. À Ouasso, heureusement, au Sénégal, vous n'avez pas ces problèmes d'insécurité, mais toutefois, il y a des obstacles, n'est-ce pas, au développement du tourisme. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des principaux défis que vous devez relever finalement pour développer encore plus le tourisme dans votre pays ?
Alors, donc, je vais parler un peu du tourisme d'affaires, qui est un peu ma spécialité, ce que je connais le mieux. Et on est confronté à un problème d'investissement hôtelier, parce qu'on n'a pas assez d'hôtels pour pouvoir accueillir les grands événements. Et souvent, nous, on nous demande souvent dans les cotations d'accueillir des grandes conférences de 2000, 3000 personnes, mais malheureusement, on n'a pas assez d'hôtels. Donc, pour vous donner juste un petit exemple, donc, en termes de réceptifs au niveau de Dakar, entre Dakar et Sali, qui est la zone la plus touristique, on tourne autour de moins de 800 établissements. Et sur ces 800 établissements, on a très peu de 4-5 étoiles. Donc, le premier grand défi que le Sénégal doit corriger et essayer de relever, c'est de renforcer, d'augmenter sa capacité hôtelière pour accueillir les grands événements, parce que le Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour se positionner sur le tourisme d'affaires, sur ce que nous appelons le MICE, tout ce qui est meeting, incentive, convention et exhibition. Donc on a construit des infrastructures de dernière génération en termes de capacité pour accueillir les grandes conférences. On a développé les routes, on a développé les moyens de transport, mais c'est la capacité hôtelière qui fait défaut pour accueillir les grands. Jusqu'à présent, on accueille, mais bon, c'est assez limité. Donc, on est obligé pour les grands événements d'aller entre Dakar et Thiès, alors qu'on aurait pu peut-être, si on était vraiment une destination majeure par rapport au tourisme d'affaires, rester dans une seule zone et essayer de développer aussi ces établissements de 4-5 étoiles dans les autres régions. Parce qu'il n'y a pas que Dakar, il n'y a pas que Sali. On a Saint-Louis qui se développe. On a trouvé du pétrole dans cette zone-là et la demande est de plus en plus importante. En Casamance aussi, on a besoin d'avoir des réceptifs de grande catégorie, de très bonne catégorie. C'est ce qui manque pour l'instant.
Voilà. Donc le développement immobilier pour développer le tourisme, bien entendu. Awa, sont restés avec nous. On retourne en RDC pour écouter Dominique Nsangolo qui travaille dans le tourisme, notamment à travers son ONG Niota Africa.
Alors je vais parler aujourd'hui de ce que j'ai vécu en République démocratique du Congo étant issu du Maïndombe, une province où on trouve un beau lac, le lac Maïndombe. Maï, c'est l'eau en Lingala, Ndombe en Kikongo, qui veut dire noir. Ce lac a une apparence d'eau noire, mais c'est tellement magnifique lorsqu'on fait des balades sur cette plage où on trouve du sable blanc. J'invite les gens à considérer le Congo comme un potentiel touristique, des sites à visiter. Il y en a énormément sur chaque province. Je travaille avec beaucoup de partenaires qui s'attellent à rendre ce pays visitable avec des destinations particulières sur l'étendue du Congo. Je parle du Maïndombe parce que c'est une province où on pourrait faire du tourisme solidaire, du tourisme vert, du tourisme durable pour permettre aux gens de comprendre pourquoi des fois on dit la RDC est un pays solution, solution dans l'écologie, solution dans plein de choses.
Voilà, c'était la réflexion de Dominique Nsangolo, qui est donc en République démocratique du Congo. En fait, en réalité, elle est plutôt en Europe, mais elle travaille un petit peu entre les deux continents. Alors, Awasso, à travers le collectif des acteurs du tourisme au Sénégal, vous entreprenez plusieurs initiatives, hein, notamment pour valoriser, hein, en tout cas, vous essayez de chercher des solutions pour valoriser l'offre touristique du Sénégal. Est-ce que vous pourriez nous parler de certaines de ces initiatives?
Alors, donc, c'est une association que nous avons mise en place depuis 2 ans et demi, c'est assez jeune, mais nous sommes des membres assez dynamiques et assez motivés. Et ce qui fait le charme de notre association, c'est qu'on a essayé de copier tous les acteurs qui représentent un peu la chaîne de valeur. Donc, dans notre association, nous avons des guides, des hôteliers, des agents de voyage, on a même des consultants, on a même des campements, des hôtels de 4-5 étoiles. Vous voyez, donc c'est toute la chaîne de valeur. Et notre objectif principal, c'est comment faire pour revaloriser l'offre touristique et la diversifier. Parce que bon, c'est vrai que le Sénégal a été longtemps connu comme une destination balnéaire, mais il n'y a pas que du balnéaire, il y a le tourisme d'affaires qui se développe, qui monte en flèche. Il y a le tourisme écologique, il y a l'écotourisme, il y a la pêche, il y a la découverte des produits de niche. On a pas mal de choses, des programmes thématiques. Et maintenant, il faudrait qu'on soit assez outillés, qu'on passe cette transition numérique pour que nos offres soient beaucoup plus visibles et que les acteurs soient mis à niveau afin qu'on puisse au moins avoir des offres visibles, diversifiées, pour repositionner la destination et changer son image du tourisme de pays qui accueille que le balnéaire. Voilà, nous, notre objectif, c'est ça. Et ça passe par le renforcement de capacités. On fait des éducours pour nos acteurs, pour qu'ils connaissent mieux le terrain, qu'ils puissent voir chaque année les produits qui sont créés, les hôtels qui ont été rénovés, d'autres qui ne sont plus aux normes, pour qu'on puisse au moins mieux avoir une offre qualifiée. Voilà. Et donc, dans notre... Voilà. Je m'en arrête là pour l'instant, parce que sinon je vais trop développer.
Très bien, on reste ensemble à Ouasso. On va aller faire un petit tour au Burkina Faso pour écouter Charles Bazema. Et tout de suite après, on ira au Cameroun pour écouter, à ce moment-là, Maximilien Ngombe. On commence par Charles.
Le tourisme d'hiver, le secteur qui allait développer le pays, si vraiment il y avait toutes les conditions étaient réunies. Prenons le cas de mon pays, le Burkina Faso, avec le phénomène terroriste. Le tourisme a pris un coup. Avant même le terrorisme, il y avait les infrastructures, les voies qui menaient dans les régions où il y avait des sites touristiques à visiter étaient impraticables, même si les gens forçaient. Même arrivé là-bas, il y avait beaucoup de conditions à remplir avant. Maintenant, je crois que pour lever ça, il faut oser avoir des infrastructures adéquates. Et pour le cas du Burkina Faso, il faut la sécurité. Même si les gens partent, je crois que beaucoup partent avec la peur au ventre. Maintenant, les sites à visiter, moi je conseille les cascasses du Banfoura, il y a l'Europérénie, il y a l'Algorithme sacré, la Côte de Mogonava. Il y a plein de choses à visiter et ça rend notre pays magnifique.
Je pense que le problème du tourisme en Afrique est un problème politique. Il faudrait plus le prendre sur cet angle-là. En réalité, les dirigeants ou les gouvernements africains, bien qu'ils soient tout le temps en train de venir ou alors de prendre des vacances pour venir dans des pays occidentaux et voir comment les autres profitent de leur tourisme, ne prennent aucune politique pour diversifier d'abord ou alors pour même valoriser les zones de tourisme. Je pense que c'est même de volonté politique et la malgouvernance pour développer le tourisme ou bien pour faire à ce que ce soit rentable, il faut qu'on mette
n'est-ce pas, des personnes qu'il faut, qui connaissent un peu le sens du tourisme. Et de troisièmement, n'est-ce pas, de notre complexe toujours de penser que c'est les autres qui peuvent faire et que nous, nous n'avons pas la capacité de faire. C'est dommage parce que dans les pays occidentaux, le tourisme est peut-être la troisième richesse ou la deuxième même des pays parce que quand, par exemple, on a vu avec le Covid que lorsqu'on a eu cette pandémie, l'économie a été très, 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 très difficile dans ces pays-là. Et on a vu que dès qu'on a levé les mesures barrières, l'économie a recommencé.
Voilà, c'était la militante des droits humains Maximilienne Ngombe au Cameroun. À Ouasso, vous avez entendu ce qu'elle a dit, la question de la volonté politique, n'est-ce pas? Bon, ce qui nous mène forcément à essayer de voir un petit peu comment on procède à travers le ministère du Tourisme, d'autres ministères, d'autres institutions qui sont censées gérer le tourisme. Est-ce que vous, au niveau de votre pays, vous sentez qu'il y a une volonté politique, qu'il y a vraiment des, je ne sais pas, des aides, qu'il y a vraiment des soutiens qui se font pour que vraiment les communautés développent, hein, même au niveau local, le tourisme.
Voilà, depuis quelques années, il y a une petite volonté politique qui a été affichée, donc avec des instruments d'accompagnement pour les entreprises. On a mis en place le crédit hôtelier et touristique, donc il y a certains acteurs qui en ont bénéficié, donc les agences de voyage, les campements des hôteliers. Et on a aussi un autre programme donc pour les toutes petites structures, donc pour des structures d'incubation pour pouvoir accompagner les toutes petites entreprises et tout ça en termes de prestataires touristiques. Mais il reste beaucoup à faire. Effectivement, je suis d'accord avec la dame qui vient de parler. Il faudrait une volonté politique fortement affichée. Et c'est ça qui va déterminer une vision claire. Et à partir de la vision, on mettra en place un mode de gouvernance approprié. Parce que le tourisme, c'est un secteur tellement transversal. Et quand ça marche, tous les autres pans de l'économie marchent. Allant de la petite vendeuse de cacahuètes qui va vendre ses cacahuètes pour l'apéritif, en passant par le maraîcher qui va vendre sa salade, voilà. Et tout le monde, même quand il y a beaucoup de touristes, la facture d'électricité des hôtels augmente, donc la société qui s'occupe de l'électricité, donc gagne. Donc, en termes de TVA, tout le monde y gagne. Donc, et c'est un secteur qui contribue vraiment au PIB, qui permet de recruter beaucoup de jeunes. Voilà, il y a énormément de choses. Donc, si la volonté politique elle est vraiment affichée et que les acteurs du secteur public et du secteur privé se mettent ensemble et qu'ils travaillent dans un même contexte, dans un même esprit, ça va aller plus vite. Mais voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais nos gouvernements ont fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts ces dernières années.
À Ouasso, on reste avec vous. On va retourner encore en République démocratique du Congo, encore à Goma, pour écouter Sarah Ntamboué.
Ville de Goma, une des grandes villes touristiques de la RDC. Nous faisons référence au Sambaza, nous faisons référence au bord du lac Kivu. Et certaines autres îles, hein, plusieurs îles, ont été maintenant confirmées et même vulgarisées étant des sites de tourisme. Nous avons Tchegera, nous avons Minova, nous avons plusieurs sites touristiques au-delà du parc de Virunga. Il y a vraiment le barrage Inga que plusieurs ont appris à l'école et ont maintenant l'opportunité de vivre ça physiquement. C'est vraiment en RDC, au-delà de tout ce qu'on a comme défi, que certaines zones touristiques sont encore entre les mains de certains groupes armés, certains rebelles, mais nous croyons que, en dépit de tout ça, la RDC reste l'un des grands pays en Afrique, ayant au moins 70 à 80% des sites touristiques avec innovation et qui change à vie votre façon de voir les choses par rapport à l'Afrique.
Et voilà, c'était encore la réflexion d'une gomatracienne, hein, Sarah Ntamboué, hein, sur donc la situation, hein, comment développer le tourisme, hein, notamment quand on vit dans une zone en guerre. Je pourrais citer la réflexion de Victoire Lasseni Dubose, politicienne gabonaise, qui a donc écrit à VO Afrique. Alors elle écrit, je la cite, « Je défendais le tourisme avec des matériaux locaux en incitant les Gabonais à connaître leur propre pays pour favoriser les investissements ici et là avant d'ouvrir le tourisme à l'international. Les retombées seraient multiples, frein de l'exode rural, emploi multiple, développement de l'agriculture, de l'élevage tout azimut. En fait, le développement de toutes les contrées, car le Gabon est béni, dit-elle, elle met deux points, forêt pour créer des pistes de randonnée, plages, plaines, canyons, rivières, lacs, océans, animaux de tout genre, oiseaux rares comme le perroquet bavard. » Voilà, dixit Victoire Lasseni Dubose. Awasso, au niveau du tourisme, vous avez entendu tout à l'heure, hein, Maximilienne, elle pointait le fait que effectivement les pays occidentaux savent très bien mettre en avant ce secteur, hein, le secteur du tourisme qui fait vivre énormément de personnes. Est-ce que cela veut dire que vous prenez peut-être exemple parfois sur le modèle justement occidental? En tout cas, est-ce que vous avez des partenaires forcément sur d'autres continents afin de pouvoir avancer un petit peu dans votre secteur et puis vraiment répondre aux demandes des gens qui voudraient visiter votre pays?
En fait, en termes de partenariat commercial, effectivement, le Sénégal est une destination qu'on appelle une destination une commune qu'on reçoit. Donc, on fait un peu d'outgoing, mais on reçoit beaucoup plus de touristes de l'étranger. Et le tourisme a été le modèle business du tourisme au Sénégal dans les années 70. C'était vraiment par rapport au marché européen et principalement sur le marché français. Et donc maintenant, on a vu d'année en année donc, cette mutation et donc on reçoit beaucoup plus de gens de la sous-région et tout ça. Et à chaque fois, il faudrait s'adapter par rapport à l'offre touristique parce que le marché européen est différent du marché africain et même le marché sénégalais est différent même du marché européen. Et des fois, on a même ces petits problèmes parce que tous les hôtels... toute l'offre touristique a été calquée sur ce marché-là. Et depuis qu'on a eu la pandémie, on a eu à développer beaucoup plus de tourisme local. Et on se rend compte que, des fois, les structures ne sont pas tout à fait adaptées aux besoins du marché local. Et donc, il y a tout cet ajustement-là à faire. Et voilà, et ça marche un peu de plus en plus. Bon, même si ça devient un tourisme beaucoup plus de week-end et de plus en plus pendant les grandes vacances. Mais la tendance, elle est dans une tendance d'accroissement. Et les partenariats commerciaux, on les trouve. Hein. Chaque structure va chercher ses partenaires en fonction du marché qu'il veut, du marché potentiel. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de partenaires sur le marché européen, sur le marché africain, et j'ai une relation B2B avec des agences et je suis leur correspondant sur le marché sénégalais.
Merci, voilà. Merci beaucoup, Awasso. On va faire un petit tour à présent au Rwanda, à Kigali, pour écouter Jean-Louis.
Le domaine du tourisme nécessite un certain professionnalisme et aussi cerner sa clientèle pour lui offrir le meilleur service. Il faut arriver à offrir un package ou un circuit avec un prix connu à l'avance et respecté sans surprise. Dans le cas du Rwanda, il y a de cela quelques années, les principales sources de devises du pays étaient la vente du thé et du café. Mais de nos jours, les recettes du tourisme sont supérieures à celles de ces deux éléments. Aussi, il y a une particularité entre trois pays, la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. Ce sont les gorilles des montagnes, immortalisés par la regrettée Diane Fossé dans le film Gorilla in the Mist. Pour s'assurer la clientèle, il faut absolument investir dans la sécurité. Et comme au Rwanda, un pourcentage des revenus du tourisme est alloué aux populations qui côtoient le parc et surtout les braconniers qui sont reconvertis en guides. En résumé, l'Afrique est encore vierge et beaucoup à offrir dans le domaine du tourisme, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Quand on identifie un secteur porteur, il faut travailler d'arrache-pied à le perfectionner continuellement.
C'était la réflexion de Jean-Louis. Il est à Kigali. J'en profite pour citer cette fois-ci en République démocratique du Congo, Jonas Tshipadi. Il a écrit sur les réseaux sociaux « Les États africains doivent collaborer afin de s'attaquer à des obstacles tels que l'accès aux terres et les règles d'obtention des visas. Cela leur permettra de développer des opportunités touristiques, de transformer le climat économique et de dynamiser la création d'emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes », dit-il. C'est la suggestion donc de Jonas qui est en RDC. Avant de revenir vers vous, Awasso, je voudrais à présent qu'on écoute toujours en RDC l'ancienne ministre Faïda Mwangiloua.
Lorsque je pense aux vacances, je pense à mon pays dans le cadre du tourisme. Ce pays, la République démocratique du Congo, qui a attiré beaucoup de touristes, particulièrement à la partie est, mais qui aujourd'hui est confronté à des conflits armés. Je vous assure, le Kivu, c'était un paradis. Donc, il était facile de circuler dans le parc de Virunga pour découvrir des merveilles de la nature en faune, en flore. Donc, il était aussi facile d'aller voir les gorilles du parc de Kahuzi-Biega dans la province du Sud Kivu. Ce sont ces obstacles-là, les obstacles liés aux conflits armés qui ont endeuillé nos populations, ça fait bientôt 3 décennies, et les animaux sont également touchés par ces problèmes-là et arrivent même à fuir parce que les animaux fuient aussi le bruit de bottes et ils fuient. Donc voilà les obstacles et comment les lever, c'est simplement faire un plaidoyer fort pour que la paix revienne dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Parce que lorsqu'on maintient des conflits, ça bouleverse tout le peuple de la région des Grands Lacs qui ne savent plus se fréquenter parce qu'il est plus facile de quitter le Burundi, le Rwanda et de venir visiter ces magnifiques parcs. Il est plus facile de se fréquenter parce que c'est aussi des sources de revenus. C'est des patrimoines. Par exemple, quand je vois le parc de Virunga, c'est aujourd'hui un patrimoine mondial. Soutenez-nous dans le plaidoyer. Il y a de merveilles. La vie, ce n'est pas seulement les minéraux, l'argent.
Voilà, c'était l'appel de Faïda Mwangiloua. On va écouter à Lubumbashi à présent Nelly Katang, l'écrivaine. Donc, elle va nous parler un petit peu, elle, du tourisme dans la province du Haut-Katanga.
Dans notre pays, il y a beaucoup de sites touristiques, et particulièrement dans ma province, sur la route Likasi. Il y a ce site touristique où l'on avait assassiné notre héros Patrice Lumumba. Mais ce qui freine au développement du tourisme dans notre pays, c'est cette guerre qui fait qu'il y a beaucoup de touristes qui ont peur de visiter notre pays à cause de la guerre et aussi des infrastructures. Pour développer le tourisme en Afrique et surtout dans mon pays, il faudrait bien que cette guerre puisse s'arrêter et qu'on développe les infrastructures afin d'accueillir plus de visiteurs et permettre à ces touristes de se déplacer sans trop de difficultés d'une ville à l'autre.
Awasso, pour terminer, on va parler un petit peu du tourisme panafricain en fait, hein, parce que bon, on essaie toujours d'attirer des personnes, des touristes d'autres continents, mais le gros manque à gagner finalement, il est dans le tourisme sur le continent lui-même. Est-ce que vous parvenez à attirer beaucoup d'Africains au Sénégal et comment vous procédez pour cela ?
Voilà, c'est très important parce que bon, c'est vrai que tout au début, donc on était beaucoup plus orienté sur le marché européen, le marché américain, sans pour autant vraiment faire des prospections sur le marché africain, surtout dans la sous-région. Et depuis quelques années, donc il y a une vraie stratégie de prospection. On assiste à des salons du tourisme, par exemple à celui de Abidjan, là, de la Côte d'Ivoire, le CITA, qui est un salon assez intéressant. Et on a pu avoir des partenaires qui nous envoient des touristes ivoiriens qui viennent séjourner au Sénégal. On reçoit aussi des Maliens qui viennent de temps en temps. On reçoit des Gambiens. Donc voilà, il y a cet échange entre même la Mauritanie, hein, donc au niveau de on ne le dit pas assez,
Il y a un tourisme de week-end qui se développe entre la Mauritanie et le nord du Sénégal. Et pratiquement tous les week-ends, on voit beaucoup de Mauritaniens venir passer leur week-end à Saint-Louis. Et voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus développer parce que le potentiel est là. Et il faut juste voilà, créer des facilités entre, pour voyager entre les pays.
Merci.
La voie ferrée, c'est ça qui est beaucoup plus.
Merci beaucoup, Awasso. Je rappelle que vous êtes présidente du collectif des acteurs du tourisme au Sénégal. À la production, c'était Georges Léonard Sagnot. Avec vous à la présentation, Nathalie Barge. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et bon courage.